Radio Vivant, pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Lucas Bielli,
produite et réalisée par
FM+.
Bonjour Guylaine Dubois.
Bonjour Lucas Bielli.
Alors Guylaine, aujourd'hui vous allez nous parler de la plainte en psychanalyse.
Oui, en effet, la plainte, parce qu'il n'est pas rare que la plainte soit l'expression première et manifeste de l'entrée en cure psychanalytique. Des plaintes, des doléances, des pleurnicheries, des protestations, des réclamations, récriminations ou encore vitupérations. Tous ces mots correspondent à différents niveaux de plainte et disent aussi que la plainte exprime une souffrance dans la relation à l'autre. On se plaint de l'autre. Cet autre pouvant être une personne, un proche, une institution ou encore une situation qui s'avère inconfortable, inacceptable, intolérable. Dans la plainte, il y a l'idée d'une souffrance qui abat le sujet, qui se sent impuissant à changer la situation et qui estime que personne ne pourra recevoir sa plainte et encore moins la comprendre et la soulager. La plainte est propre à la mélancolie. Le plaignant sollicite une écoute et pas nécessairement une réponse. En tout cas, n'attend pas de réponse factuelle. Il cherche surtout à épancher sa plainte, telles les lamentations bibliques, dont l'intérêt est l'expression de la plainte plus que la solution au motif de la plainte. Pour la psychanalyse, la plainte présente trois caractéristiques. Il y a d'abord la reconnaissance d'une personne importante pour le plaignant, une personne centrale, essentielle, qui serait la mère, la personne qui nourrit dès la plus petite enfance. Puis, la deuxième caractéristique est l'expérience que cette personne fougueusement aimée s'éloigne, prend ses distances, qu'elle a sa vie et qu'elle peut même disparaître à jamais. Et enfin, la plainte advient en raison du refus de cette mise à distance. La plainte prend sa source dans cette insurmontabilité de l'éloignement irréversible et inaccepté. C'est cette confrontation à la séparation qui nourrit la plainte, comme si l'enfant qui est devenu l'adulte n'accepterait pas que l'être si aimant et aimé pouvait s'éloigner de lui. La plainte a donc à voir avec les questions de rupture, de séparation, de perte, d'absence, qui n'ont eu ni réponse, ni compréhension, ni solution d'ordre psychique. Le cabinet du psychanalyste, la relation avec le psychanalyste, est le lieu où s'exprime la plainte la plus actuelle, celle qui se manifeste au quotidien. Et de plainte en plainte, comme une complainte dans le transfert, peut surgir la première des plaintes, la plus archaïque, celle qui détermine toutes les autres. N'entendons-nous pas cette expression « Mais de quoi te plains-tu ? N'as-tu pas tout pour être heureux ?» dit bien que la plainte a des racines profondes, invisibles à celui qui observe le contemporain. La plainte, c'est bien autre chose, et ne se donne pas à l'écoute dès les premières paroles. La plainte est à rechercher. La forme de l'écoute analytique permet justement de ne pas s'en tenir à l'expression du réel, mais de déceler à travers les mots de l'aujourd'hui l'importance des événements qui ont modelé, structuré le psychisme naissant. Le transfert met à jour cette situation de finitude, de séparation, qui empêche la complétude fusionnelle. L'écoute analytique, en ne cherchant pas à intellectualiser la plainte, en élaguant la rationalité des situations sociales, confortables, mais en percevant toute la densité émotionnelle d'avant le langage parlé, amorce les chemins vers la plainte originelle.
De retour sur FM+, pour Radio Divan. Merci Guylaine Dubois pour cet exposé sur la plainte. Alors je souhaitais revenir sur ce que vous avez dit concernant la relation entre la plainte et les expériences de séparation. Vous soulignez que la plainte est souvent liée à des expériences de rupture, de séparation, de perte ou d'absence. Ça me fait penser à prendre un exemple dans la mythologie grecque, une fois de plus Orphée, qui je trouve illustre cette relation. Car après la mort de son épouse Eurydice, il est inconsolable et se plaint de sa perte. Son voyage aux enfers, pour tenter de la ramener à la vie, montre la profondeur de sa souffrance et sa réticence à accepter la séparation. Je voulais revenir aussi sur l'importance du transfert et de l'écoute analytique, et je ne parlerai pas de mythologie. Comme vous l'avez dit très justement, Guylaine, le transfert et l'écoute analytique sont essentiels pour comprendre et traiter les plaintes en psychanalyse. Et dans l'Antiquité, justement, le philosophe stoïcien Épictète soulignait l'importance de l'écoute et de la compréhension des émotions et des pensées, pour mieux se connaître et atteindre la sagesse. Alors certes, la philosophie stoïcienne n'est pas directement liée à la psychanalyse, mais elle illustre l'importance de l'écoute attentive et de l'exploration des émotions et des idées inconscientes, pour mieux se comprendre soi-même et affronter le monde et diminuer donc ses tensions psychiques.
Oui, il est tout à fait justifié de revenir à ces philosophes gréco-romains, à cette mythologie. Et Freud lui-même s'est beaucoup enrichi à l'histoire archéologique de cette période. Et tout à fait, il n'a pas inventé complètement l'écoute analytique. Il s'est beaucoup inspiré de ses lectures et de sa connaissance de l'archéologie.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il me semble que dans Analyse finie ou infinie, il fait part de ses lectures du philosophe grec qui parle des éléments dont j'ai oublié le nom actuellement, en disant que ça l'a sûrement inconsciemment, dans ses lectures étant jeune, fait mûrir en lui la réflexion sur la pulsion de vie et pulsion de mort.
Merci Lucas.
Merci Guylaine. Au revoir.
Au revoir.
C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.